RMC Intégral Tour.
Regarde là, tu vois les traces de roues? Regarde, ça c'est du Moser, ça. C'est même du 23 mm.
Christophe Cessieux.
Tu sais ce que c'est? C'est l'Allemand qui m'a doublé quand j'avais crevé tout à l'heure.
Et nous sommes à 50 km désormais de l'arrivée de cette 15e étape du Tour de France. Tout à l'heure à Valence, les coureurs du peloton qui sont en train de redescendre vers la vallée du Rhône. On va peut-être faire un tour sur la moto RMC avec Georges Quirino qui se trouve toujours au contact des 9 hommes de tête. Georges, sur la moto.
Oui, dans la descente hein, que l'on vient de débuter il y a quelques instants, derrière les hommes de tête qui voient l'avant-garde du peloton revenir derrière eux. Et là, dans la descente, il y en a un qui fait la descente à fond, c'est l'Italien Matteo Trentin de la formation Etihad Quickstep qui a pris quelques mètres d'avance sur le groupe Pinot Sagan, notamment Thibaut Pinot qui fait pas la descente à fond. Là, c'est le même cas pour Peter Sagan, donc c'est Trentin qui a pris quelques mètres d'avance.
Très bien, Georges. À tout à l'heure, Fred. L'avance des 9 hommes de tête continue
de descendre, de chuter 1:10 au dernier pointage pour les 9 hommes de tête, dont Roger Sagan, Kwiatkowski, Trentin et Jodal est là aussi, le Canadien, l'ancien vainqueur du Tour d'Italie, le jeune Adam Yates, l'Allemand Simon Geschke, le Danois Lars Bak et Thibaut Pinot, donc le grimpeur de la FDJ. On est à moins de 50 km de l'arrivée dans la descente de l'Escrinet. 1:10 sur le peloton maillot jaune et 11 minutes sur un groupe où figurent des sprinteurs. On voulait savoir si les sprinteurs passeraient le col de l'Escrinet. Il y en a quelques-uns qui sont hors jeu, mais pas à cause de l'Escrinet, à cause du début d'étape très rapide. Marc Cavendish et Arnaud Démare sont les deux principaux sprinteurs dans ce groupe d'attardés, où l'on trouve également Jean-Christophe Perrault en souffrance toujours, l'homme complètement bandé.
Très bien, c'est l'heure de la musette, messieurs, dames. On va voir quelles informations nous ont ramené nos reporters et nos commentateurs.
RMC Intégral Tour, la musette.
Et on va peut-être commencer par Georges sur sa moto. Georges qui était donc ce matin au départ de l'étape. Georges, tu es allé, je crois, rencontrer les gens de la formation Sky. Une drôle d'ambiance autour du bus Sky ce matin.
Exactement. Alors bon, double Matteo Trentin, l'homme de tête à toute allure là, dans la descente. Oui, effectivement, là, le bus Sky où on a pu constater ce matin qu'il y avait beaucoup plus de membres de forces de l'ordre par rapport à d'habitude. Il y avait 6 policiers autour du bus de la formation britannique. Alors c'est forcément consécutif à ce qui s'est passé hier. Hein. On vous rappelle que Christopher Froome a reçu des sauts d'urine pendant les
on a discuté une petite avec, tasse, hein, pas un seau non plus, hein, une petite tasse. Hein.
Citerne d'urine.
Le maillot jaune.
Il s'est passé quelque chose là dans la traversée d'un village à 47 km de l'arrivée. Excuse-moi Georges, et tu es sans doute un petit peu loin du groupe de tête pour le voir. Ça descendait à 70 km/h et Michal Kwiatkowski, le champion du monde, a dû sauter un terre-plein pour passer de la gauche à la droite de la route. Ce n'était pas un ralentisseur, c'était un terre-plein dans le sens, on va dire, longitudinal. Il a fallu le traverser. On revoit ça sur les écrans de contrôle. Des artistes du vélo, ces coureurs cyclistes. Waouh. Grosse chaleur pour le champion du monde qui, on vous le rappelle, fait partie des 9 échappés. Excuse-moi, Georges.
Très bien. Georges qui nous rappelait donc d'autres avaient connu des chaleurs. C'est le cas de Chris Froome hier, donc victime de spectateurs mécontents. Et du coup, la sécurité, tu nous disais, Georges, renforcée autour du bus de la formation britannique.
Oui, avec 6 policiers autour du bus, et c'est vrai qu'on parlait avec Nicolas Portal, le directeur sportif ce matin, qui disait que oui, il y avait des craintes hein, pour la sécurité de ces coureurs. Certains ont même un peu peur au moment où ils prennent le départ d'une étape. C'est ce qu'ils nous disaient. Voilà, ils nous rapportaient évidemment le fait que Richie Porte a pris un coup. Il nous disait dans la montée de la Pierre Saint-Martin d'un spectateur. En fait, il était un peu désabusé, se demandant jusqu'où tout ceci aller alors qu'on ne parle que de sport. Il me disait voilà, imaginons on a un déséquilibré qui vient comme ça a pu arriver dans d'autres terrains de sport avec une arme. On se demande vraiment ce qui peut se passer. Il en appelait tous les organisateurs à la responsabilité, à assurer leur sécurité. Il y avait de la crainte ce matin chez Sky, et quand on a vu le visage de Christopher Froome, le maillot jaune, sortir, il n'avait pas l'air très très serein. Mais voilà, en tous les cas, c'est l'ambiance qui règne actuellement chez le maillot jaune, où on a l'impression que justement ce maillot jaune est un peu lourd à porter en ce moment même, et qu'on a du mal à profiter vraiment de la joie d'être en tête du classement général.
Très bien. Fred, il faut rappeler que c'est pas la première fois que le maillot jaune du Tour de France est victime de spectateurs. On évoquait hier le Tour 1975, et Eddy Merckx qui dominait la planète, le cannibale depuis de nombreuses années, et qui avait été victime d'un spectateur qui lui avait donné un coup de poing, le coup de poing de la haine, ça avait évidemment...
De la honte
plus exactement. Cyril, bon, il y a eu ça, et puis à l'époque de Lance Armstrong qui se faisait siffler, huer par les spectateurs au
cracher
départ.
Dessus.
Alberto Contador également. Ça a été de tout temps, hein. C'est vrai qu'en France, on n'aime pas toujours les gars qui gagnent, Cyril. Bon, évidemment, les réactions de tous ces gens qui sont au bord des routes, il y a peut-être un quart de pourcent d'un pourcent de spectateurs qui peuvent en venir à faire ce genre de choses, mais c'est pas la première fois, Cyril.
Non, ça n'est pas la première fois, et ça n'est pas que sur le Tour de France. C'est également vrai sur le Giro, c'est également vrai sur la Vuelta, et j'ai presque envie de dire... on a vu des choses se passer sur le Giro qui étaient à la limite plus grave que cela. Donc, je crois que, enfin, il me semble qu'on a un petit peu tort de gonfler cette affaire, parce que vous prenez sur une étape, vous avez en gros, entre 500 000 et 1 million de spectateurs, et je parle pas de la haute montagne, et vous en avez un qui vient faire une connerie, et d'un seul coup, on a l'impression que tous les spectateurs sont des abrutis, des voyous, alors que ce n'est pas vrai. On empêchera, le risque zéro n'existe pas, on n'empêchera jamais un spectateur d'avoir un comportement irresponsable en termes de sécurité, ça existe aussi, on a vu des coureurs chuter parce que certains spectateurs avaient des comportements, soit en courant après les coureurs. Rappelez-vous par exemple Lance Armstrong qui chute en accrochant la main d'un spectateur qui était derrière les balustrades. Donc ça existera toujours, il y aura toujours une personne qui à un moment donné va péter les plombs, parce que c'est comme ça qu'il faut peut-être la voir. Il aura peut-être eu de la haine parce qu'il se sera fait engueuler à la maison, il n'était pas d'accord avec sa femme, et puis ça s'est terminé comme ça, ou l'inverse. Donc ne disons pas que tous les spectateurs sont comme ça, mais demandons quand même aux spectateurs de respecter les sportifs, de respecter leur effort. Et j'ai envie de le dire, c'est pas sur le vélo qu'il se passe le plus de choses, compte tenu de la proximité du sportif avec le spectateur. C'est le seul endroit où le spectateur est au contact du sportif. Ça n'est pas vrai dans un match de foot, ça n'est pas vrai dans un match de basket, ça peut être vrai dans les courses sur route en course à pied, mais on est les seuls où le spectateur est aux côtés. Et le nombre d'accrochages qu'il peut y avoir, c'est quand même très 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 minime. Ouais. Alors j'ai l'impression qu'on en fait un petit peu trop, et attention au mimétisme.
Ouais. Très bien, merci Cyril pour cet avis. On va continuer notre musette qui va rester d'ailleurs dans le même domaine, le petit accordéon quand même, hein. On aime bien le petit accordéon de la musette, avec Pierre-Yves Leroux. Bonjour Monsieur Philoux.
Salut Christophe.
Hein, qui n'a pas chanté aujourd'hui.
Non, on aurait pu chanter du Jean Ferrat aujourd'hui, on n'est pas très loin d'Entraigues.
Exactement.
Effectivement, le pays de Jean. Fred, quoi, pourquoi tu me regardes avec ces grands yeux?
Non, Entraigues sur Volane, pays de Jean Ferrat, pays d'Yves Joigny et sa célèbre remise, vous savez, ce cérémonial sur le rallye Monte-Carlo,
bien sûr,
où les pilotes et copilotes se sont longtemps arrêtés à déguster la la tarte aux pommes d'Yvette. On salue Yves, évidemment, qui nous écoute depuis Entraigues.
Très bien. Pierre-Yves, donc ce matin, le patron du Tour de France
nous a convoqué.
Oui, convoqué au poste, et ça rigole pas. Hein.
Bon rapport. Effectivement, Christian Prudhomme qui voulait passer un message ce matin et qui a demandé aux grandes radios françaises de le retrouver à 11h pour avoir un petit échange. Ça a été très rapide parce que on a pu poser une seule question et ça a duré 2 minutes. On va écouter un extrait de ce petit échange avec Christian Prudhomme qui lui aussi s'indignait du comportement de certains spectateurs sur le bord des routes et qui regrettait aussi le discours de certains médias. On l'écoute.
Il y a forcément une corrélation entre ce qui est dit dans les journaux, à la télé, à la radio et ce qui se produit au bord des routes. Il y avait un décalage total jusqu'à il y a 48 heures entre ce qui était écrit, ce qu'on lisait partout et la réalité des gens au bord de la route qui étaient tous très sympas comme toujours sur le bord de la route. Mais quand vous regardez, quand vous entendez, c'est l'ancien journaliste qui parle, 18 ans journaliste, bien sûr que ce qu'on écrit, ce qu'on dit, ça a une influence sur les gens, sur les esprits les plus faibles qui peuvent ensuite avoir un comportement qui est intolérable, inadmissible et regrettable.
Voilà, Christian Prudhomme qui pointe lui aussi du doigt certains discours dans les médias.
On en reparle tout de suite, il se passe un petit quelque chose sur la course, un gros quelque chose même. 7 coureurs sont rattrapés à l'instant par un peloton emmené, tiens, par les Europe Car et notamment Romain Sicard, Thibaut Pinot, Michel Kwiatkowski, Adam Yates, Peter Sagan, Lars Bak et Simon Geschke sont repris alors qu'il ne reste que plus que 2 rescapés de l'échappée du jour à 39 km de l'arrivée. Il y a Matteo Trentin, l'italien de l'équipe Etix Quickstep et Ryder Ejedal, le canadien en contre-attaque à 39 km, 1 minute d'avance pour Trentin et 30 secondes d'avance pour Ejedal.
Christian Prudhomme qui évoquait le total décalage qu'il y avait il y a quelques jours entre la fête pour l'équipe Sky et ce qui est écrit dans les journaux. Pourtant, ce que nous dit Richie Porte, ce que disait Richie Porte dans une interview hier, c'est qu'il a pris un coup de poing d'un spectateur dans la montée de la Pierre Saint-Martin, c'est-à-dire avant que toutes les rumeurs, toutes les suspicions ne naissent. Donc je ne sais pas s'il y avait tant de décalage que ça maintenant, à savoir si c'est la faute des médias, je sais pas. Cyril, est-ce que tu te sens responsable de ce qui se passe aujourd'hui sur le bord de la route comme d'autres consultants? Je crois que Christian, on l'a pas entendu là, mais a évoqué les experts et pseudo-experts. Donc je sais pas, est-ce que c'est la faute des médias? Est-ce que les médias sont responsables de tous les maux du monde? Peut-être, sans doute.
Je ne me sens pas concerné par ces propos. Pas le moindre du monde. Je n'ai pas la prétention d'être un expert.
Un scientologue.
Mais plus un scientologue, puisque c'est un terme qui a été utilisé. Non, moi je me sens pas concerné. Et je pense que il faut peut-être un petit peu raison garder, parce que renvoyons tous les médias à la maison. Et c'est les équipes qui vont les rappeler. Hein. Mmh. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de paranoïa de la part des acteurs, qu'ils soient encadrement ou coureurs, parce qu'ils souhaiteraient tous qu'on dise que du bien d'eux. Ouais. Or, on est là aussi des témoins pour dire ce que l'on pense, dire ce que l'on voit, dire ce que l'on ressent dans le respect des individus. Et je crois que c'est ce qu'on fait au niveau des RMC.
Alors, il faut se rappeler, bon, le passé du cyclisme, évidemment, fait que on n'est jamais.
Mais ça, c'est pas notre responsabilité,
non,
le passé.
Non.
C'est pas nous qui avons inventé les protocoles de l'EPO.
Exactement. Et il faut se souvenir aussi des critiques de la société lorsque on nous a reproché de ne pas avoir dit les choses concernant Lance Armstrong quand même pendant des années. Évidemment on n'avait pas de preuves, donc on n'a rien dit sur Lance Armstrong. On faisait naître de temps en temps quelques rumeurs, il y avait des suspicions qui traînaient, certains le disaient, d'autres le disaient pas. Et ensuite, lorsque l'affaire a véritablement éclaté, lorsque la justice s'est emparée de cette affaire, on nous a dit oui, mais vous le saviez, vous n'avez rien dit pendant 10 ans.
Ben ouais. C'est l'omerta.
Et l'affaire Virenque, l'affaire Festina en 1998. Moi, je me rappelle que les gens sur les bords de route nous insultaient, nous jetaient les pierres sur les voitures des médias parce que on osait dire que Richard Virenque et l'équipe Festina.
Mais c'est allé plus loin que ça. On retirait les stickers sur les voitures pour pas qu'on sache que c'était une voiture de presse.
Ouais. Donc évidemment.
Or, la réalité, elle était quand même bien là. Il y avait bien un service organisé de dopage au sein de l'équipe Festina.
Et puis aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui font que les critiques.
Bien sûr,
mais sur Chris Froome ont été
lancés par les réseaux sociaux.
Bien sûr.
Le jour de la pierre Saint-Martin, j'étais sur le hashtag RMC Live, ça a été une avalanche. Je n'ai jamais reçu autant de tweets depuis que Twitter existe. C'était complètement dingue. Alors peut-être qu'on est influencé aussi par les réseaux sociaux, peut-être un peu trop, parce qu'on relaie ce qui se dit, mais c'est pas seulement les journalistes qui se posent des questions, c'est aussi les gens derrière leur ordinateur ou devant leur télé ou en écoutant la radio. Voilà, bon bref, en tous les cas, évidemment qu'on ne va pas polémiquer autour de ça, et on va surtout demander aux spectateurs de respecter les coureurs, parce que tous, autant qu'ils sont de véritables héros, et que ils accomplissent un travail incroyable, et Chris Froome est digne de respect, et on doit respecter ce coureur comme on doit respecter tous les coureurs. Voilà.
En parlant de polémique, Peter Sagan, le maillot vert repris, lui qui faisait partie de l'échappée, s'est positionné à l'arrière du peloton à 36 km de l'arrivée et a mis du temps à appeler sa voiture. Il a tergiversé, il s'est arrêté pour changer de vélo, ce qui a fortement déplu à Peter Sagan lui-même et à sa voiture suiveuse, ce qui fait que le cadreur qui restait collé au basque de Peter Sagan pour filmer l'opération de changement de vélo, qui est parfois suspecte pour certains ici sur le Tour de France, le cadreur a pris un bidon dans l'objectif lancé par le mécano de l'équipe Tinkoff Saxo. Il y a des leaders qui sont sur les dents sur ce Tour de France.
Oui, ou les encadrants dans la voiture.
Oui, bien sûr. Les équipes leaders, je voulais dire, Sky et Tinkoff, donc.
35 km de l'arrivée, donc on va vivre le final dans quelques instants sur RMC. Il est 16h20, on se quitte quelques instants. Peut-être un tour au Queens quand même, Eric Salio, dans la troisième manche entre Gilles Simon et Andy Murray.
Ouais, 7 partout donc entre la Grande-Bretagne et la France. 6-4 Gilles Simon, 7-6 Andy Murray. Dans ce troisième set, c'est Andy Murray qui est en tête. Il mène 3-2. Il est au servi, donc il a réalisé un break. Il en avait deux d'avance, il en a effacé un, mais là il y a une balle de 4-2 pour Andy Murray. Mais Gilles ne capitulera pas. Maintenant, est-ce que ça suffira? Ça, c'est une autre question. 2h38 de match. Ballotage favorable pour les Britanniques qui mènent 4-2 au troisième.
Merci Eric. 16h20, 34 km de l'arrivée. On revient pour le final de cette 15e étape du Tour de France, à tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
16h22 sur RMC, nous sommes à 33 km de l'arrivée. On va faire un point dans un instant. Il n'y a plus qu'une poignée de secondes d'avance pour les hommes de tête, 30 secondes d'avance très exactement. Et puis on va faire un tour également à Moscou pour retrouver Rodolphe Massé. Malheureusement, les Français ont perdu au fleuret.
Oui, une défaite, Christophe. 45 touches à 31. Le bilan de ces mondiaux 2015, eh bien, il est largement en dessous des objectifs. 3 médailles seulement, 2 en argent, 1 de bronze. Alors que l'objectif était de 5 médailles, dont 2 en or. Et puis une ambiance délétère aujourd'hui pour terminer après les propos d'Hugo Bry. D'ailleurs, je peux vous annoncer que la présidente de la Fédération française d'escrime, Isabelle Lamour, a demandé au directeur technique national de mettre fin dès aujourd'hui à la mission d'Hugo Bry. Hugo Bry souhaitait continuer jusqu'aux Jeux Olympiques de 2016 et arrêter ensuite. Eh bien, visiblement, il ne verra pas Rio.
Eh oui, c'est triste. Merci Rodolphe. Donc l'équipe de France qui repart avec un bilan mitigé de ces championnats du monde d'escrime. Tiens, ça réagit évidemment fortement à ce qu'on a dit tout à l'heure. Olivier nous dit: vous êtes pathétique à vous défendre au lieu de reconnaître vos torts et la diffusion d'un esprit anti-sportif. Pathétique. Voilà, nous sommes pathétiques. Désolé Olivier d'être pathétique, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Voilà, voilà. En tous les cas, on donne la parole à tout le monde, même ceux qui.
Oui, mais je pourrais répondre à ça. Qu'est-ce qu'on fait du bidon qui est parti dans la caméra?
Ah bah il faut pas le dire, on
faut
est
pas
pathétique,
le dire.
On est pathétique Cyril.
On est pathétique et là si on le dit, c'est nous qui faisons une polémique.
Allez, retour à la course, c'est ça qui nous intéresse. 31 km 800 de l'arrivée et les 9 échappés non plus pour longtemps. Hein.
Non, c'est fini pour les 9. Il n'en reste plus que 2. Il n'en reste plus que 2 puisqu'on vous le rappelle, Peter Sagan, Thibaut Pinot, Michael Rogers, Lars Bak, Simon Geschke, Adam Yates, Michal Kwiatkowski ont été repris. Il ne reste que 2 rescapés de la grosse échappée du jour. Il s'agit de l'Italien Matteo Trentin, déjà vainqueur de 2 étapes sur le Tour lors des 2 dernières éditions, et Ryder Ejeudal, le Canadien de l'équipe Garmin Cannondale, vainqueur du Giro il y a 3 ans. 31 km de l'arrivée, 25 secondes seulement d'avance pour ces deux hommes de tête.
Le final dans un instant, juste un petit coucou à Dédé sur la route, on l'a retrouvé.
Il est où Dédé?
André, salut André, tu as 30 secondes pour nous dire ce qu'il y a à retenir et si la route va fondre en arrivant à Valence. Fait très chaud ici. Hein.
Alors oui, la route ne va pas fondre parce qu'on va arriver sur des revêtements qui sont des revêtements urbains, habitué à voir les voitures, à voir le trafic, donc il n'y a pas de risque de fonte. On a quand même connu une chaleur qui progresse en arrivant vers l'arrivée vers Valence, puisque là moi je suis à l'arrêt à une dizaine de kilomètres et il fait 34 degrés 55 au sol sur des revêtements qui sont ce qu'on appelle des enrobés, donc ça ne craint strictement rien. La route est large, elle est très large, elle n'est pas exceptionnellement belle. Entre le Rhône et la voie ferrée, en tout cas, ça devrait rouler sans problème, forte chaleur et un temps qui se maintient, il ne pleut pas, le ciel est couvert, avec des alternances de passages nuageux et de soleil. Donc ça doit être tout bon jusqu'à l'arrivée, avec éventuellement quelques passages délicats et dangereux dans les, allez, entre 5 et 3 kilomètres de l'arrivée. Les 3000 derniers mètres seront très tranquilles pour le peloton. Voilà pour le résumé.
Merci monsieur André, on te retrouve tous les jours évidemment dès qu'il y a des choses à nous dire et pour prévenir les gens sur le bord de la route. André Bancalade de l'Assemblée des départements de France vient nous le dire. 16h26, le final de l'étape, donc 30 km encore à parcourir, plus que deux hommes en tête. Georges Quirino est sur la moto RMC.
Exactement, avec les deux hommes de tête qui sont derrière nous, Matteo Trentin et Ryder et Jeudal. On est sur des routes très larges avec le Rhône désormais sur la droite des coureurs, et Dédé en parlait, c'est vrai que depuis qu'on est redescendu dans la vallée, la température a largement augmenté. Il fait 35 degrés désormais sur les routes du Tour. Alors on n'a pas le soleil qui est là, hein. C'est un peu nuageux encore au-dessus des coureurs, mais c'est vrai que la température est de plus en plus importante, c'est de plus en plus lourd pour les coureurs désormais sur la fin de cette étape, et le peloton qui peut voir les deux hommes de tête qui ouais. sur ces longues lignes droites en ligne de mire.
C'est terminé pour les deux hommes qui ont bien compris qu'ils sont en train de discuter, Fred, et qui vont être repris dans 5, 4, 3, 2, 1. Échappé, pas encore, nous en deux.
Presque terminé. C'était bien, c'était chouette, cet échappé sur les routes de l'Ardèche, mais c'est et terminé voilà, pour Matteo Trentin et Ryder et Jeudal. Peloton groupé à 29 km de l'arrivée. On file vers la Drôme et cette arrivée pour sprinter à Valence. Les Lotto Soudal viennent d'apparaître à l'avant du peloton, relayés par les Europcar. Que font les coureurs de l'équipe Europcar à l'avant? Est-ce que c'est pour Brian Cocard? Évidemment. Mais c'est beau de voir les maillots verts.
Frédéric, fallait écouter le briefing.
Oui, c'est vrai que le druide s'est adressé aux Europcar pour préparer le terrain à Brian Cocard. Cocard qui avait fait troisième l'autre jour sur la sixième étape. Les Katiusha d'Alexander Christophe qui ont abattu beaucoup de boulot depuis le départ de Mende sont également à l'avant. On ne devrait pas échapper dans ce final tout plat à une arrivée au sprint ici à Valence.
Très bien, avant le final, c'est l'heure de notre question du jour avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Lionel Chemin nous a rejoint dans ce petit studio. Salut Lionel.
Bonjour à tous.
Comment ça va Lionel?
Bah pas mal, chaudement. Hein.
Chaudement évidemment. Fred, tu voulais poser une question.
La question, ouais. Le Parisien. Oui, la question, le Parisien aujourd'hui en France. Elle me semble évidente aujourd'hui, au lendemain de l'étape de Mende où Peter Sagan, le maillot vert, s'était glissé dans l'échappée. Lui, le sprinter, alors il est davantage qu'un sprinter, c'est un excellent puncher, mais la côte de la Croix-Neuve, ça semblait quand même un obstacle insurmontable pour ce solide Slovaque. Échappé à nouveau aujourd'hui Peter Sagan, alors que tous les sprinteurs ont coché cette étape, et le scénario nous donne raison, leur donne raison, ça va arriver au sprint à tous les coups. Que fait Peter Sagan à se glisser dans deux échappées? Est-ce qu'il bétonne son maillot vert en assurant les points sur les sprints intermédiaires à mi-étape environ? Est-ce qu'il a tiré un trait sur les victoires d'étape, lui qui collectionne les deuxièmes places? Il en est à 4 deuxièmes places depuis le départ du Tour. Est-ce qu'il a perdu ses nerfs? Il se passe quoi?
Écoutez, je crois que vous êtes dans le vrai quand vous dites qu'il bétonne son maillot vert.
D'accord.
Parce que en admettant qu'il ne gagne aucune victoire d'étape, il rapportera toujours un quatrième maillot vert à Paris.
Oui, il en a déjà trois.
Ce qui est pas si vilain.
Je suis sûr qu'il serait plus heureux avec une victoire d'étape qu'avec un maillot vert.
Est-ce que ça satisfera Oleg? Je ne sais pas.
Oleg Tinkov, son patron, le milliardaire russe.
Voilà. Bon, cela dit, on est à 25 bornes de l'arrivée. Il a laissé beaucoup d'essence dans l'échappée aujourd'hui, celle d'hier, comme vous l'avez dit, mais il a toutes ses chances encore. Peut-être qu'il se sent pas complètement à la hauteur face aux sprinteurs purs et durs qui ne sont pas encore servis, tels que Degen Kolb, Christophe. C'est pas si loufoque en fait.
D'accord. Alors si les coureurs pètent les plombs en ce moment, c'est peut-être aussi dû à la pression que leur mettent les patrons d'équipe, Oleg Tinkov pour Sagan et pour Contador, ou encore Vinokourov pour la formation Astana. Cyril, il y a une pression terrible. Hein. Je lisais un papier ce matin concernant Nibali. Il est sous pression constamment. Est-ce que c'est la façon de faire avancer un coureur, de lui mettre une telle pression, de le pousser à gagner comme ça?
Pousser à gagner, si on le fait de façon maladroite, sans aucune pédagogie du management, effectivement, on va se retrouver avec une pression négative. La pression, elle est nécessaire. C'est celle qui vous permet de vous surpasser. Mais il faut que cette pression soit positive. Il faut qu'elle soit l'émanation de votre propre moi, relayée par les gens qui sont autour de vous. Mais quand on met de la pression, quand la pression vient de l'extérieur, elle n'est jamais bonne. C'est moi qui ai envie de gagner. C'est moi qui suis pénalisé lorsque je ne gagne pas. Exemple hier. Qui est pénalisé? C'est le coureur d'abord qui est pénalisé. Ensuite, bien sûr, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour Thibaut Pinot, il a deux coureurs qui se sont mis à la planche, et puis à la sortie, il n'y a pas la victoire. Bon, ça c'est une chose, mais cette pression que vous vous mettez parce que vous prenez des responsabilités, vous vous engagez, celle-là, elle va vous amener à vous surpasser. Celle qu'on vous met avec une matraque au-dessus de la tête, comme ça peut être le cas pour certains coureurs, certains patrons, enfin bref, certains managers, celle-là, elle va à l'envers. Et rappelez-vous, quand on a dit concernant Sagan, il fait toujours deux. Depuis le début de l'année, il fait toujours deux. Il faut aller chercher la raison et la cause dans le management, pas ailleurs. Le coureur, il a toujours le même potentiel. Mais il y a peut-être des petites inhibitions sur le plan du fonctionnement qui peuvent justifier le fait que il manque toujours le petit truc pour aller à la gagne. Et en fait, pour répondre à l'autre question concernant est-ce qu'il vaut mieux gagner une étape que gagner le maillot vert, je vais vous répondre tout de suite. Gagnez déjà le maillot vert, vous verrez si vous pouvez gagner une étape après. Mais quand on arrive au quatrième maillot vert, on commence à s'attaquer au record des coureurs qui sont arrivés à Paris avec le maillot vert. Et ça, c'est quand même important.
Ça compte, ça compte.
Très bien. Merci Lionel d'être venu dans ce studio. Là. Tu veux rajouter peut-être le mot de la fin? C'est toi qui as le mot de la fin aujourd'hui.
C'est beaucoup d'honneur. mais moi, je ne serais pas étonné que Sagan entreprenne quelque chose encore demain là quoi parce que
arriver à Gap demain
par
le col de Mans, c'est la fameuse descente de la Rochette, on le rappelle.
Deuxième
catégorie,
il peut faire d'une pierre deux coups, aller ramasser encore des points pour le maillot vert, okay. Et qui sait passer et aller coiffer un petit groupe d'échappés.
D'accord. Pour moi, ce serait un beau gâchis, mais c'est bien qu'on ait des points de vue divergents, évidemment.
Très bien. On va tout de suite à Londres, Eric Salio, car il y a une balle de 7 pour Andy Murray, me semble-t-il.
Balle de 7 effectivement pour Andy Murray dans cette troisième manche. 5 jeux à 3 pour Andy Murray. Il y avait 30 à et il a servi Gilles et il est tombé. Il est encore tombé sur le gazon. Alors c'est pas une grosse gamelle, mais bon, il a perdu ses appuis et le retour d'Andy Murray était dedans, donc il n'a même pas eu le temps de se relever. Il s'est essuyé le coude, il y a peut-être une petite égratignure, mais le problème c'est qu'il y a une balle de 7 à effacer avec une bonne première. Il y va, Gilles, attention, le passing, non, c'est un lob. Oh là là! Oh, il est gagnant. Quel lob. C'est millimétré, c'est chirurgical, de 7 à 1 pour Andy Murray. Les Français sont à 1-7 de l'élimination de cette Coupe Davis.
Ok Eric, à tout à l'heure, 16h33 sur RMC, 23 km 800 de l'arrivée, peloton groupé qui se dirige vers Valence. On en parle dans un instant pour la suite de l'intégral tour et l'arrivée de cette étape à Valence. Allez Fred, on tue 2 minutes pour tout nous dire. Oui, c'est comme ça, c'est
le bonheur existe
15h30,
alors, c'est ça que tu es en train de me dire.
16h30, c'est ton heure.
23 500 de l'arrivée sur cette 15e étape entre Mende et Valence, des routes de plus en plus chaudes puisque l'on est descendu des routes en altitude de la Lozère et de l'Ardèche, des corps somptueux aujourd'hui à la sortie du massif central en direction du couloir rhodanien. Une échappée de 9 s'était portée à l'avant sur les routes très escarpées du début d'étape. Il y avait dans cette échappée les deux Tinkoff, Rogers et Sagan, Lars Bak, Simon Geschke l'allemand, Adam Yates un jeune britannique, Kwiatkowski et Trentin, Ryder et Jeudal, mais aussi et surtout Thibaut Pinot, le grimpeur franc-comtois de la FDJ, qui s'est donc glissé dans un coup pour la deuxième fois en deux jours, tout comme Peter Sagan. L'échappée du jour a été reprise il y a quelques instants. On se dirige vers le Rhône pour aller atteindre Valence, terme de cette 15e étape. Peloton groupé à 23 km de l'arrivée avec, et ce n'est pas une surprise, les équipes de sprinteurs à la barre. Les équipes de sprinteurs pour Greipel, les maillots rouges de la Lotto Soudal, les maillots verts, et c'est une bonne surprise de l'équipe Europcar pour Brian Coquard. On a aperçu de longues minutes, presque de longues heures depuis le départ de Mende tout à l'heure, les Katyusha du sprinteur norvégien Alexander Kristoff, qui est toujours Fanny sur ce tour à l'avant du peloton. Ce sont eux, les Katyusha, qui ont ramené le peloton sur la tête de course. 22 km 500 de l'arrivée. Plus aucune difficulté dans le final de cette 15e étape. Est-ce que Greipel va faire la passe de 3? Est-ce que John Degenkolb, le sprinter allemand vainqueur de Paris-Roubaix un peu plus tôt dans la saison, va enfin ouvrir son compteur? Est-ce que Peter Sagan va vaincre la malédiction, lui qui a déjà fait deuxième à 4 reprises? Réponse dans un peu plus de 20 km.
Rien ne va plus, faites vos jeux.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Le peloton du Tour de France qui s'approche à grands pas, grand coup de manivelle maintenant vers Valence, un peu plus de 20 km encore à parcourir et l'échappée est terminée. Elle a duré un long moment aujourd'hui, mais c'est terminé. Il n'y aura pas de victoire de Thibaut Pinot aujourd'hui comme on aurait pu l'espérer. Évidemment, les Europcars sont à l'avant. On va tout de suite retrouver Georges sur la moto RMC qui est au contact du peloton. Georges.
Oui, avec le peloton qui est derrière nous, qui prend une grande partie de la largeur de la route. On voit les Europcars dans les premières positions. On voit également les coéquipiers de André Greipel avec le maillot rouge de la formation Lotto Soudal, les coéquipiers du Gorille de Rostock, peut-être pour une troisième victoire d'étape. On est sur des routes assez larges. On voit aux alentours de la dixième position les coureurs de la formation Sky qui sont autour de leur maillot jaune. Christopher Froome, le maillot jaune dans les premières positions donc de ce peloton pour éviter les chutes. Le peloton qui va dans quelques instants passer sous la banderole indiquant les 20 derniers kilomètres dans une température assez moite, on a l'impression, 34 degrés là pour ce final.
Et oui, 34 degrés, il fait très chaud et le ciel qui s'est couvert quand même. On n'annonce pas d'orage, mais bon, quand même, hein, ça pourrait arriver vu la chaleur qu'il fait cet après-midi à Valence. Cyril, les Europcar au grand complet qui roulent à l'avant. Bon, tous les sprinteurs n'ont pas été éliminés quand même, hein, et Coquard a priori n'est quand même pas le sprinteur le plus rapide de tous ceux qui restent. Est-ce que c'est la bonne tactique? Est-ce que c'est la bonne méthode? Cyril? Bon, Cyril, peut-être tout à l'heure.
Il boit un coup.
Oui, ah ben Lucho est là. Oh, Lucho qui a tombé le pantalon aujourd'hui.
J'ai mis la short sans couture.
Ah, toi aussi, tu attention. oui, la méthode, la tactique d'Europcar, Lucho.
Oui, mais c'est étonnant. C'est étonnant de voir l'équipe Europcar mener le train devant les grosses équipes de sprinteurs. J'espère que Brian Coquard va pas stopper l'arrivée, parce que c'est quand même toute l'équipe Europcar qui est en train de mener le peloton à 20 km de l'arrivée. Donc on va voir un petit peu stratégiquement si cette remontée des Europcar au niveau du peloton et puis pour rouler pour Coquard, ça va payer l'arrivée, j'espère. En tout cas, la chose étonnante quand même, c'est que la dernière bosse à 60 km de l'arrivée n'était pas si dur que ça, puisque Greipel est passé et que personne n'avait mis favori Greipel aujourd'hui et qu'il risquerait peut-être de remporter sa troisième étape sur le Tour de France. C'est possible parce que l'arrivée, quand on regarde la configuration de l'arrivée aujourd'hui, c'est quand même une arrivée pour Greipel.
Oui, Luc Leblanc qui récupère particulièrement bien, hein. Très très véloce sur la fin de deuxième semaine. L'effet
chantant couture. Il a eu un coup dur quand même.
Oui, oui, semaine.
Un seul coup dur.
Ah ouais, mais bon, ça
dû à la chaleur, ça peut arriver. À mon âge, je supporte moins bien la chaleur qu'avant dans ma jeunesse.
Pour quelqu'un de 55 ans.
C'est notre Thibaut Pinot.
Presque 50 ans. Nous avons les jeans sans couture, mais à manches courtes.
Très très courte.
J'ai besoin de respirer.
C'est presque peur ce short sur Luc. 19 km de l'arrivée. Un peloton pas encore en file indienne et un peloton duquel ne s'extraira personne dans les minutes qui viennent, ou alors ce serait une grande surprise. Toujours les Europcar et les Katyusha qui mènent le bal pour leur sprinter Cocard, Christophe, les Lotto Soudal et là Luc en parlait pour André Greipel. On n'a pas encore vu les Giant Alpecin de John Degenkolb qui se réserve sans aucun doute pour les 10 derniers voire les 5 derniers kilomètres. Ce sont des maîtres dans l'art de créer un train, de composer un train qui lance leur sprinter maison, à savoir l'Allemand vainqueur de Milan-San Remo et de Paris-Roubaix cette année. Il est possible que John Degenkolb ouvre enfin son compteur sur le Tour 2015 et sur le Tour tout court, parce qu'on vous rappelle que dans l'ombre de Kittel les dernières années, il n'a jamais remporté la moindre étape. John Degenkolb, c'est peut-être lui qui va décrocher le cocotier aujourd'hui.
Et oui, c'est celui qui avait annoncé Lucho et Cyril. Degenkolb est-il le plus rapide de tous ceux qui sont encore dans le peloton en ce moment, Cyril Guimard?
Non, je ne pense pas que ce soit le plus rapide. Si c'était une arrivée sur un faux plat montant, pourquoi pas, mais le plus rapide, ça reste Greipel. Il l'a démontré depuis le début de ce Tour de France. En vitesse pure, je pense que Brian Cocard est aussi rapide. Ensuite, après, c'est un problème de placement, mais vous savez, c'est avant tout aussi un grand pistard qui sait changer de rythme et avoir une accélération foudroyante. Mais encore, faut-il qu'il soit pas trop loin. Mais il n'a pas peur de frotter. Puis je crois qu'aujourd'hui, ils en veulent.
Ils en veulent. Ben oui, parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'occasions, Fred, avant l'arrivée sur les Champs-Élysées, les sprinteurs. C'est quasiment la dernière.
C'est la dernière. Recase, hein, c'est la dernière. Demain, arrivée à Gap, dans la vallée, mais au-dessus de Gap, ce n'est que des montagnes et ce sera le col de Mans, classé en deuxième catégorie, avec cette fameuse descente de la Rochette où Lance Armstrong avait tiré tout droit dans le champ suite à la chute de l'Espagnol José Babelocchi. Non, il n'y aura pas d'autres occasions pour les sprinteurs que celle d'aujourd'hui à Valence, dans 17 kilomètres maintenant.
17 kilomètres, on va faire un petit tour à Londres, trouver Eric Salio pour la suite du quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Grande-Bretagne. Murray qui a pris l'avantage sur Gilles Simon. Où en est-on, Eric?
3 heures pile de jeu ici sur le gazon du Queens, 2-7-1 donc pour les Britanniques, 4-6, 7-6, 6-3. On est au début du quatrième set. Murray a remporté sa mise en jeu, il mène un jeu à 0. Et attention à ne pas se faire breaker tout de suite, Gilles. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a 30 à, donc il y a peut-être la menace d'une balle de break. Conditions de jeu toujours aussi difficiles avec un vent tourbillonnant, difficile de se régler. Et Gilles, là attention, hein, Gilles a failli se faire surprendre par un retour très profond de Andy Murray qui va sûrement récolter le point. Voilà, balle de break à venir pour Andy Murray. La situation commence à devenir désespérée pour l'équipe de France. Faut absolument que Gilles écarte cette menace pour rester dans le sillage de l'Écossais, mais que c'est compliqué face à un joueur qui depuis une heure et demie, eh bien, a vraiment haussé son niveau de jeu de manière assez bluffante. Donc balle de break à venir pour les Britanniques, Christophe.
Très bien, allez, on prend une ou deux petites canettes sur le bord de la route parce qu'il va falloir tout donner dans les derniers kilomètres. 16 kilomètres et on revient pour le final de cette étape, à tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et avant de vivre le final de cette 15e étape sur RMC, on va faire un petit détour par le volleyball avec la finale de la Ligue mondiale, la première fois dans l'histoire du volley français, je crois, qu'une équipe de France se retrouve en finale. Ça vient de débuter, c'est face à la c'est la deuxième fois. Benjamin Glaze est avec nous.
Voilà, salut Christophe. Ouais, ouais, ouais.
Salut Benjamin.
16, face à la Serbie. Premier set face à la Serbie et 16-17 maintenant à 13 pour l'équipe de France qui fait la course en tête. Les Français qui menaient déjà 5-0 d'entrée. Ça se passe plutôt bien pour les Français, notamment pour N'Gapet qui est déjà à 7 points marqués. Je vous rappelle le score donc dans ce premier set. Donc ça fait 17-13 pour l'équipe de France face à la Serbie dans cette finale de la Ligue mondiale.
Merci, merci beaucoup Benjamin. Petit détour par Londres également. Eric Salio pour la suite du match entre Murray et Simon.
Et nouvelle chute pour Gilles Simon qui peine à se relever. Cette fois-ci, c'est je crois la cheville gauche qui a morflé, comme on dit, alors que Andy Murray vient de réaliser le break. Et là, Arnaud Clément qui est à ses côtés qui réclame le juge arbitre. Gilles en a plein les bottes de faire des culbutes sur le gazon du Queens. Et là, la cheville gauche a dû tourner. Donc, en tout cas, la situation maintenant elle devient quasiment dramatique pour l'équipe de France puisqu'Andy Murray mène 2-1. Il y a 2-0 désormais au quatrième set après ce nouvel incident dû au gazon qui est un peu glissant. C'est vrai que c'est dur de
retrouver ses appuis. Ils ont dit picot sous les chaussures, mais voilà, Gilles, c'est la troisième ou cinquième ou quatrième culbut dans cette rencontre. Donc 3h04 de match. Andy Murray qui se détache irrésistiblement de 7-1 et break 2-0 dans le quatrième pour le Britannique.
C'est incroyable le nombre de chutes à au Queens. On se croirait sur la route du tour, dis donc, Eric.
C'est 3 minutes avant, c'est Andy Murray qui avait culbuté. Donc, mais sans dommage, faut croire qu'ils ont
c'est
appris
quoi,
à
le terrain n'est pas plein de bosses.
C'est un coin du terrain où il y a un peu moins d'herbe. Tu sais, donc c'est de la terre. Donc, t'as l'impression que t'as tes appuis et en fait, tu glisses quoi. Et puis peut-être que les joueurs ils mettent un peu le frein à main. Ils osent pas y aller à fond et souvent ça les fait inverse. Mm. Et c'est pour ça que Gaël, mon fils, n'aime pas le gazon. Il peut pas jouer sur cette surface.
Ouais, bien sûr, il peut pas glisser.
C'était auto-écarté de cette sélection de Coupe Davis. Donc là, c'est des soins pour Gilles Simon, la cheville, le mollet, on sait pas trop. J'espère qu'il va reprendre, évidemment. Mais bon, là, la marque est vraiment défavorable aux Français.
Merci Eric, à tout à l'heure. 12 km 600 de l'arrivée et toujours ce peloton groupé. Tiens, une question pour Lucho ou pour Cyril. Marie sur le hashtag RMC Live qui nous dit quels sont les délais sur ce type d'étape. Perrault peut-il arriver hors délai?
Bonne question puisque je les ai calculés.
Ah ben voilà.
Ah ben voilà, on est en phase. Questions, Marie. On est en phase, oui, parce que quand j'ai vu le groupe lâcher peu après le départ, j'ai donc fait mes petits calculs. C'est une catégorie 1, donc le pourcentage du temps scratch à l'arrivée, compte tenu qu'on va être à plus de 45 de moyenne, va être de l'ordre de 8%, ce qui veut dire que grosso modo les délais vont être de 19 à 20 minutes.
19 à 20 minutes.
J'ai toujours eu le réflexe de directeur sportif.
Oui. Oui, bah c'est ça, on l'a bien compris. On se fait engueuler dans la voiture, nous, quand on prend pas le bon itinéraire et tout, ça rigole pas. Fred, heureusement, mais c'est un bon copilote, un meilleur que toi d'ailleurs, Fred, parce que toi t'es pas du tout bon en copilotage.
Non, j'ai...
Donne-moi je vous dirai ce que j'en pense ce soir, mais hors antenne.
Donne-moi le retard de Jean-Christophe Perrault.
On est loin des 20 minutes encore.
12, 15, non, ça va le faire.
12 minutes 20 de retard pour Jean-Christophe Perrault. Et c'est important, en vue de ce qui va se passer dans les derniers kilomètres, arriver au sprint prévu ici à Valence. Jean-Christophe Perrault a tardé, mais il n'est pas le seul. Il est dans un groupe d'une vingtaine de coureurs où l'on trouve Marc Cavendish et Arnaud Démare. On ne comptera pas sur eux aujourd'hui pour la victoire. Ils ont fait les frais d'un début d'étape ultra rapide sur des routes très escarpées à la sortie de Mende, sur les routes emberlificotées d'Ardèche. Cavendish et Démare qui ont montré leurs limites face au Greipel, Degenkolb, Sagan ou peut-être Coquard aujourd'hui. Attention.
Choubouki nous dit sur le hashtag RMC Live, pour les paris RMC, Peter Sagan second à l'arrivée, ça cote bien ça?
C'est une très belle ironie.
Je
ne
sais pas si on peut parier sur un second, mais ce serait intéressant. On posera la question à Benji tout à l'heure, le roi des Paris.
Ce serait sa cinquième, deuxième place à Peter Sagan. On ne lui souhaite pas, évidemment, parce que vraiment, oui, il y aurait de quoi aller se les mordre dans cette.
Ça fait un moment qu'il se les mord, ça va finir par faire mal. Hein.
Oui, mais il est bien.
Ce que j'allais dire, il ne doit plus rien rester.
Il en reste, il en reste. Il est solide, le garçon.
10 km 900 de l'arrivée. Lucho se mord rien du tout, mais il est magnifique avec son short.
Rien à mordre.
On va vous mettre une photo sur le hashtag RMC Live quand même, que vous puissiez juger vous-même du short. Parce que moi je suis passé en short en jean sur le hashtag RMC Live, donc toi aussi tu vas y passer tout à l'heure. Allez, 10 km 600 de l'arrivée, ça roule très fort en tête de peloton, Fred.
Oui, les Europcar sont relayés en ce moment par les Lotto Soudal, par les BMC de TJ Van Garderen également. Les Tinkoff Saxo sont là pour Peter Sagan, évidemment, même si Peter Sagan et son maillot vert sont aux alentours de la 30e place maintenant. On aperçoit les Yam Cycling également présents, l'équipe de Sylvain Chavanel. Il y a beaucoup d'équipes intéressées par la victoire aujourd'hui ici à Valence. 12 minutes 15 de retard en ce moment pour le groupe Perrault, Cavendish et Démare. On va faire le tour d'horizon des coureurs rapides qui peuvent aller se disputer la victoire ici à Valence, alors que le peloton passe quasiment en file indienne sous la banderole des 10 derniers kilomètres.
Les 10 derniers kilomètres de cette 15e étape du Tour de France.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Voilà, 10 derniers kilomètres, tout le monde est en train de s'installer en tête de peloton pour ce sprint qui va donc se dérouler tout à l'heure, sprint massif. Les équipes qui viennent à tour de rôle, Cyril, prendre la tête du peloton actuellement, ce sont les BMC qui s'installent. Fred, pour qui roulent-ils, les BMC?
Alors les BMC probablement pour positionner au mieux TJ Van Garderen. Greg Van Avermaet a montré qu'il avait des jambes, lui qui était échappé hier au lendemain de sa victoire à Rodez. Il y a Daniel Oss aussi, le solide coureur italien, mais il est plutôt dans un rôle de coéquipier pour Van Avermaet. Je ne vois pas sinon pour qui rouleraient les BMC. On aperçoit les Tinkoff Saxo pour protéger les intérêts de Peter Sagan. Cyril, tu vois qui? Est-ce que tu peux nous faire un tour d'horizon, toi, l'ancien sprinter, l'ancien maillot vert du Tour de France? Est-ce que tu peux nous dresser le panel des sprinteurs qui peuvent s'imposer ici à Valence aujourd'hui?
Il y a le maillot vert Peter Sagan, mais je crois qu'il a fait beaucoup d'efforts. On a Greipel qui va être emmené vraisemblablement par De Buchère. On a Degen Kolb, on a Christophe, on a Michael Matthews qui retrouve un petit peu de fraîcheur après ses...
L'Australien de l'équipe Orica Green Edge. Voilà.
On a Brian Coccar, on a Cimolai également qui va très vite.
L'Italien de la Lampre.
Voilà, et on reste à peu près sur ces coureurs-là. Bon, on a toujours des coureurs qui peuvent venir, qui vont vite, mais dans des emballages aussi bien organisés, c'est quand même difficile de venir lorsqu'on n'a pas une équipe entièrement dévouée à sa cause.
Et on rappelle que Arnaud Démare et Marc Cavendish ne joueront pas la victoire d'étape. On est à 8 km de l'arrivée. Le vent s'est un peu baissé, a un peu diminué. Lui qui soufflait dans le couloir rodanien en direction du sud. On passe de grands ronds-points, pas de chute aujourd'hui. Vous voyez ce dont on vous parlait lors du début de Tour de France n'a plus lieu sur ce type d'étape. La nervosité et les nombreuses chutes que l'on avait vues à la sortie d'Utrecht en direction de l'ouest de la France n'a plus lieu. Après 2 semaines de course, les coureurs ont pris leurs automatismes. Il y a moins de nervosité, moins de pression également sur les épaules des coureurs qui ont ramené ici ou là des places d'honneur ou même des victoires dans la besace. Le peloton est une espèce de ruche où les petites abeilles savent exactement à quoi s'en tenir après quelques jours de vie commune. On se respecte, on sait quel est le niveau de qui, tout est en ordre. 7 km 500 de l'arrivée, les BMC toujours à l'avant avec en deuxième rideau les maillots rouges des Lotto-Soudal de Greipel.
Messieurs, pour qui auriez-vous voté aujourd'hui pour le combatif du jour, Cyril?
Bonne question et je vous remercie de me la poser à cette heure-là. Il me reste plus que 10 minutes avant de...
Matteo Trentin a été le coureur qui a le plus insisté dans l'échappée, oui. L'italien de l'équipe Etix Quickstep. Ce serait presque logique que ce soit lui qui soit désigné combatif.
Lucho,
c'est exactement ce que j'étais en train Trentin. De penser. Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui.
Fred aussi, tout le monde est d'accord.
Ça serait logique.
Eh bien, messieurs, dames, vous avez
je voudrais rajouter là, au niveau des sprinters, parce qu'on les a vus arriver, il y a Paul Martens qu'il faut... peut-être noter, qui a fait quatrième il y a 2 jours.
Ils ont peut-être mis Pinot, non?
Et puis on a Geoffrey Soupe qui vient faire les sprints également maintenant que Boigny n'est plus là.
Alors peut-être qu'ils ont mis Pinot, Christophe, alors.
Le combatif du jour s'appelle
Peter Sagan.
Ah, Peter Sagan, d'accord. Voilà.
Lui aussi. Oui, combatif dans sa voiture, on est combatif aussi.
Oui, la voiture de l'équipe Tinkoff Saxo qui, lorsque Peter Sagan a changé de vélo, on vous le rappelle, a jeté un bidon simplement à l'objectif du cadreur qui assurait la couverture du direct. Peter Sagan qui n'a franchement et très objectivement pas été le plus combatif aujourd'hui. Il s'est glissé dans le coup pour aller chercher les points du sprint intermédiaire en vue d'un quatrième maillot vert ramené aux Champs-Élysées, mais il n'a jamais attaqué, au contraire de Trentin, au contraire des Jeudal. Il a même été l'un des premiers à se relever lorsqu'il a fallu économiser des forces en vue d'un très probable sprint avant l'arrivée ici à Valence. Ce jury du prix de la combativité est en train de faire un sacré Tour de France. En tout cas, il a tendance à faire l'unanimité contre lui.
Allez, 5 km 700 de l'arrivée, beaucoup de monde sur les bords des routes évidemment pour saluer le peloton qui passe à vitesse grand V maintenant avec toujours les coureurs de la formation BMC aux avant-postes, Fred.
Oui, les coureurs coéquipiers de Greg Van Avermaet, coéquipiers de TJ Van Garderen qui a perdu sa deuxième place hier au profit de Nairo Quintana. Ils emmènent Van Avermaet, ils ont une confiance aveugle les BMC en leur coureur belge vainqueur de l'étape de Rodez il y a deux jours, mais il faudra leur dire que l'arrivée aujourd'hui n'est pas en côte contrairement à l'arrivée dans la capitale de l'Aveyron. A priori il y aura des coureurs plus rapides que Van Avermaet aujourd'hui. On peut citer en vrac Greipel, Degenkolb ou Peter Sagan. Il y en aura d'autres à coup sûr pour venir se mêler au sprint arrivé dans 5 km, et les BMC qui sont toujours 4 à l'avant avec en 4e position TJ Van Garderen, le leader pour le général, tandis que Greg Van Avermaet remonte sur la droite de la chaussée dans les faubourgs de Valence et contreforts de Valence. On discute dans le peloton à l'avant du peloton. Van Avermaet
et Giant qui remonte.
Il y a des... bah oui, Cyril.
Et les Giants de Degenkolb qui sont en train de venir se placer.
Voilà, évidemment. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Ils se sont réservés pour les 5 derniers aussi. Kilomètres parce qu'ils sont des maîtres du train. C'est comme ça qu'on les appelle, ces équipes qui savent parfaitement emmener un sprinter. Les Giants Alpecin font ça toute la saison, tout comme les Katyusha pour Alexander Kristoff, tout comme les Lotto Soudal pour André Greipel. Il y a du monde au balcon pour l'arrivée de cette
dernière étape. Ils ont l'habitude de venir au panneau des 3 kilomètres. Ah, après c'est le panneau des 3 kilomètres.
C'est comme le chien de Pavlov. Poids, on voit 3 km. Allez, on remonte tous à l'assaut. Est-ce que Greipel a peut-être une chance de reprendre son maillot vert aujourd'hui? Non, il faudrait beaucoup d'écart quand même hein, entre lui et Sagan, Cyril. Hein, parce que
il y a plus de 50 points.
Ouais, il y a plus de 50 points. C'était très serré jusqu'à avant-hier, mais là, désormais, il y a beaucoup d'écart entre Peter Sagan qui va probablement ramener un nouveau maillot vert. Mais va-t-il ramener une victoire d'étape, ce qui serait sa 5e victoire dans l'histoire, dans son histoire, dans sa carrière sur ce Tour de France? Lui qui est passé 4 fois à côté. Depuis le début de cette grande boucle 2015, 4 fois deuxième, va-t-il enfin mettre au fond, ou alors une 3e victoire pour Greipel, ou une 2e, non pas pour Cavendish, on le rappelle, qui lui est très loin. Fred, 3 km 800 de l'arrivée.
Et oui, les BMC qui sont toujours à l'avant avec deux coureurs, derrière eux d'autres maillots rouges, les maillots rouges de l'équipe Lotto Soudal d'André Greipel et les maillots rouges de l'équipe Cofidis pour vraisemblablement Geoffrey Soupe qui était le poisson pilote de Nasser Bouhanni au début de ce Tour de France. Geoffrey Soupe, le barbu de l'équipe nordiste qui tente de jouer sa carte. Accélération des BMC. Danielos est en train de faire beaucoup et il est contré à 3 km 400 de l'arrivée par un coureur. C'est Zdeněk Stybar. Stybar, le Tchèque qui avait remporté l'étape du Havre en partant à la flamme rouge alors que l'arrivée était en bosse. Stybar, le Tchèque de l'équipe Etix Quickstep qui tente de fausser compagnie au peloton à 3 km de l'arrivée. Il part d'un peu loin. Il tente de jouer l'effet de surprise. Les Lotto Soudal s'organisent et vont probablement revenir sur le rable de l'ancien champion du monde de cyclocross.
Et ce Stibar ne doute de rien, Cyril. Il a envie comme ça de temps en temps. Ça a marché une fois. Pourquoi pas une deuxième, hein?
Oui, mais il a raison. Il Cavendish n'est pas là. Ça se relève un petit peu, ça se regarde, ça temporise. Et puis quelquefois, il peut manquer un petit chouïa au peloton pour aller retomber dans le sillage. Et Stibar est un coureur qui a 3 minutes max, un petit peu comme Rodriguez dans une ascension. Vous savez, c'est un cyclocrossman, il sait tenir des rythmes élevés sur 3 ou 4 minutes.
Et il en rajoute, Stibar, évidemment, parce que derrière, ça temporise quelque peu. Il est 17h sur RMC, les infos, les prochaines, vous les retrouverez tout à l'heure à 18h, car nous sommes dans le final de cette 15e étape. 2 km 400 encore à parcourir, et toujours Stibar qui tient en respect le peloton, où on s'observe un peu. On ne sait pas trop
on gère
pour l'instant, Cyril, ouais.
Mais on garde Zdeněk Stibar à portée de fusil. Il compte une petite cinquantaine de mètres d'avance, le vainqueur de l'étape du Havre, ancien champion du monde de cyclocross, Zdeněk Stibar, tout dans dehors la rage du coureur tchèque de l'équipe Etix Quickstep qui peut se retourner. Il aperçoit l'avant-garde du peloton emmené par les Lotto Soudal. Ils sont 4 les coureurs de la formation belge, avec évidemment en 4e position André Greipel. On aperçoit les Katyusha venir positionner Alexander Kristoff. Pendant ce temps-là, Zdeněk Stibar poursuit son effort à 1 km 800 de l'arrivée. Bouche, gueule, grande ouverte. Collier qui se dandine sous le coup. Zdeněk Stibar qui tente de refaire le coup du Havre. Lui qui a perdu Mark Cavendish aujourd'hui, son équipier sprinter. Cavendish et Demar sont dans un groupe attardé à plus de 13 minutes désormais. Il a les coups des franches. Zdeněk Stibar, lui qui avait remporté l'étape le jour de la chute de son leader maillot jaune Tony Martin, il est toujours en tête à 1,5 km de l'arrivée. Derrière, plusieurs équipes sont en train de revenir à l'avant du peloton.
Va-t-il réussir un deuxième coup et une deuxième victoire d'étape sur les routes de ce Tour de France, de Tour de France 2015, Cyril? Non, tu dis que
c'est fini là. C'est fini, 3 km de l'arrivée, il aurait fallu que l'écart se creuse un peu plus. Là, il a toxiné un petit peu trop et derrière on a bien géré, hein, les lotos ont vraiment bien géré derrière. Et là, maintenant, à 1 km de l'arrivée, on peut dire que ça ne le fera pas.
Ouais, il faut dire que la physionomie du final est différente de la dernière fois. Stibar qui se relève, qui est avalé par le peloton. Et un nouveau coureur tente de partir sous le côté gauche.
Sous la flamme rouge du dernier kilomètre.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Voilà, la bagarre est lancée, les sprinteurs vont s'en donner à cœur joie dans quelques instants. Qui est l'homme qui a tenté de partir sur le côté gauche?
C'est un illustre inconnu de l'équipe Bora Argon 18, une équipe allemande invitée. Oula, mais il est débordé par les Katyusha. Les Katyusha à 800 mètres de la ligne d'arrivée qui conduisent un peloton en file indienne. Deuxième position en ce moment pour Alexander Kristoff, le roi, le maître, l'épouvantail du début de saison 2015. Ouais. Toujours pas dit sur
Cocard est loin, Cocard est loin.
Dans la troisième, dans la roue de Kristoff, on trouve André Greipel, Peter Sagan est en 4, Degen Kolb en 5, Michael Matthews en 6, Tyler Farrar vient se positionner pour l'équipe MTN Kubeka, Brian Cocard est un petit peu plus loin, toujours un homme de l'équipe Katyusha pour emmener Alexander Kristoff. On est à 400 mètres de la ligne d'arrivée, les MTN Kubeka ont pris confiance avec la victoire de Stephen Cummings hier, il lance le sprint avec André Greipel qui déborde sur la gauche de la route. Est-ce qu'il va faire la passe de 3? André Greipel à la lutte avec John Degen Kolb, son compatriote allemand de l'équipe Giant Alpecin, mano à mano royal entre Greipel et Degen Kolb, alors qu'Alexander Kristoff vient se mêler à la lutte. Victoire d'André Greipel, troisième succès pour le gorille de Rostock. Victoire sans coup férir en résistant au retour de John Degen Kolb. Le solide sprinter de l'équipe Lotto Soudal vient s'imposer devant John Degen Kolb, impuissant, et Peter Sagan ainsi qu'Alexander Kristoff. Sprint royal ici à Valence.
Bravo, bravo André Greipel, le gorille a encore frappé, il a battu tous les champions avec Degen Kolb, avec Kristoff et Peter Sagan. Et oui, le cri du gorille pour la troisième fois depuis le départ de ce Tour de France. C'est bien cette année le sprinter le plus rapide du peloton, Cyril, il n'y a rien à dire.
Oui, il n'y a rien à dire, on a pu voir aussi, alors qu'il s'était bien rapproché de Cocard, qui s'est accroché avec Peter Sagan et qui a bien failli faire un vol par terre, très impressionnant la façon dont il a réussi à rester sur ses deux roues. Cocard serait venu vraisemblablement dans le top 3, peut-être mieux, il était bien placé dans les abris.
Bien placé effectivement Cocard, mais une nouvelle fois battu par celui qui est considéré à juste titre comme le meilleur sur ce Tour de France. Il y a rien à dire, hein. Voilà. Même Kristoff qui avait vraiment étincelé toute sa classe le début de saison n'a rien pu faire, il est revenu très fort. Degen Kolb qui a tenté, Fred, vraiment jusqu'au bout, mais pourtant le sprint a été lancé de loin, hein. Greipel a bien résisté, a bien tenu, hein.
Oui, il a géré son conduit son sprint de main de maître, André Greipel, qui a sollicité son équipe dans les 10 derniers kilomètres, mais pas plus. Il a été emmené par un coureur dans les 2 derniers kilomètres et il a débouché sur la gauche de la route aux 400 mètres. André Greipel, sûr de sa force, voilà ce qu'est un coureur qui a déjà 2 victoires dans sa musette. André Greipel qui devance en puissance pure ici sur la ligne d'arrivée à Valence Degen Kolb l'allemand et Kristoff le Norvégien.
Ryan Cocard est au micro de Pierre-Yves Leroux.
Je fais bien l'effort, Angelo fait bien l'effort aussi. Lui qui part rouler, je me fais vraiment violence dans le grimpeur. Et puis là, je suis sûr que vous avez vu les images. Hein, j'étais vraiment en train de produire mon effort pour essayer de revenir en injection sur Kristoff. Je pense que c'était Kristoff qui était devant moi. Et, je venais juste de regarder la ligne, il y avait 250 mètres. Donc j'étais en train de produire mon effort et puis je me fais... Je sais pas, il m'a touché le coude et... j'ai failli me... Je suis pas tombé, je déraille et tout, c'est déjà...
On t'a senti énervé à l'arrivée après Peter Sagan. C'est les aléas du sprint aussi.
Oui, c'est le sprint, écoutez, c'est normal, je suis énervé. Après, des fois, je le fais, faut que je pense qu'on serait... C'est créer, même, c'est créer un chemin, on le fait, mais... Voilà, ouais, je suis déçu parce que j'avais fait le max du boulot. Au final, il n'y a pas de résultat, quoi. Il n'y a rien du tout, il n'y a même pas un top 10 pour l'équipe. Et... Bon, voilà, il y a des circonstances...
La condition est là.
Très bien, messieurs, on va couper l'interview de Brian Coquart car il y a une balle de match pour Andy Murray face à Gilles Simon, Eric Salio.
Une deuxième balle de match pour Andy Murray face à Gilles Simon. Ça se termine en calvaire. Hein. Gilles Simon qui termine sur un pied et qui sauve quand même courageusement cette deuxième balle de match. Mais bon, il n'y a plus d'espoir. Il y a 5 jeux à 0 au quatrième set. Gilles Simon qui, on le rappelle, a connu une gabriole terrible tout à l'heure sur une reprise d'appui et la cheville gauche a tourné. Il reprend courageusement le jeu, mais là, il a cessé d'encaisser des jeux blancs. Là, il s'accroche. Il est à 5-0. 40-1 sur sa mise en jeu dans quelques minutes. Le Queen's Club va exploser de joie et saluer la qualification de la Grande-Bretagne pour une demi-finale de Coupe Davis, ce qui n'est plus arrivé depuis 1981. Mais bon, ils ont un champion, Andy Murray, qui aura remporté donc son C2 simple et puis le double aux côtés de son frère Jamie Murray. C'est vrai qu'on aura beaucoup de regrets car Gilles Simon avait bien débuté ce simple face à Andy Murray. Il y a eu quelques tournants, quelques glissades, quelques tournants aussi dans le tiebreak. Nouvelle balle de match à venir. Voilà la troisième. Je pense que là, Gilles, il en peut
Eric,
plus. Là.
Les Français ont toujours bien débuté leur partie dans ce quart de finale. Ouais. Ils les ont tous, mis à part Gilles le premier jour dans le premier match, ils ont tous très mal terminé. Et psychologiquement, ils se sont écroulés à chaque fois qu'ils ont perdu le tie-break. Hein.
C'est une défaite mentale, mais en face, c'est un grand champion. C'est le numéro 3 c'est mondial, sûr. Faut pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'en double, on est deux à s'épauler. Mais en double, on a vu aussi un écroulement mental après la perte du tie-break du troisième set et c'est ça qui fait un peu jaser ici. Un ace encore pour Gilles Simon, elle est lette, donc il va devoir resserrer, mais c'est vrai que on regarde les choses avec cruauté. On a disputé 3 tie-breaks dans cette rencontre, 3 tie-breaks qui étaient super importants, on les a tous perdus. Voilà. Ça ressemble aussi à une défaite à Ostrava en 2009, où on avait perdu 4 tie-breaks je crois de mémoire face à l'équipe de la République tchèque, et voilà, il n'y a pas de hasard. Mentalement, on n'a pas été au niveau. Les choix, bon, on pourra toujours en discuter, mais Gilles face à Andy Murray, ça s'imposait et les circonstances ont montré que Gilles était au niveau. Il a juste un peu coincé au moment le plus important, c'est vrai. Il n'a pas été servi par les événements avec un manque de réussite, quelques glissades, une première blessure au genou et puis ensuite au voilà, et c'est fini. Non, pardon, c'était un avantage Andy Murray. Nouvelle balle de match à venir, il se fait punir là sur un petit passing magnifique de l'Écossais Gilles Simon, donc il va y retourner courageusement pour essayer d'écarter cette nouvelle balle de match. Mais là j'ai le sentiment que ça va être la bonne, Christophe, mais c'est vrai que pour cette génération c'est terrible. Il y a eu la finale perdue face aux Suisses en novembre dernier, on rêvait d'une nouvelle finale avec un tableau très favorable puisque les Français, même s'il aurait fallu aller en Australie au mois de septembre, mais bon, l'Australie c'est quand même dans les cordes des Français quand on regarde le classement ATP avec 4 garçons dans les 20 premiers mondiaux. Mais bon, là ça suffit pas d'avoir 4 garçons dans les 20, faut mieux avoir un grand champion qui vous apporte tous les points. Ça a souvent été vérifié en Coupe Davis. Donc Andy Murray dans quelques instants va peut-être libérer, bon, c'est un grand mot maintenant puisqu'il n'y a plus aucun suspense, 5-0 dans ce quatrième set. Gilles Simon donc qui sauve, qui essaie de tenir la cadence, mais on l'a dit hein, il joue sur une jambe, côté coup droit il est très embêté. Voilà, c'est fini. Andy Murray qui lève les bras au ciel, il en fait pas trop, mais au fond de lui il sait qu'il a réalisé un match extraordinaire pour renverser une situation qui n'était pas favorable à l'Écossais. Donc victoire en 4 manches, 4-6, 7-6, 6-3, 6-0, belle poignée de main. Ouais, je pense qu'il n'en rajoute pas, il a compris que Gilles malheureusement avait beaucoup morflé sur le casson londonien. Voilà, la Grande-Bretagne qualifiée, la France éliminée. On savait que ce serait un week-end crucial, décisif. Eh bien on tombe de haut une nouvelle fois.
Et oui, malheureusement pour cette équipe de France, les occasions ratées se multiplient. Merci Eric. Allez, on va derrière la ligne d'arrivée, Pierre-Yves Leroux, avec un client, on l'espère.
Oui, avec Nicolas Portal, le directeur sportif de l'équipe Sky, qu'on écoute.
On respecte tout le monde, quoi, donc t'as mieux.
Le rôle du staff par rapport à ça, par rapport aux coureurs, il y a un travail particulier de votre part, justement
pour... Non, je pense que il y a aussi le staff qu'on doit soutenir. Vous savez, nos staffs vont sur les zones de ravitaillement où il y a beaucoup, beaucoup de public. On va pas en rajouter, mais c'est pas aussi facile pour eux. Et puis après, une fois que les coureurs sont sur la route, il n'y a plus personne qui les protège. On a le public qui sont à la même distance que tous ces micros-là. Donc c'est juste le sport qui veut ça, et c'est aussi pour ça que ce sport est beau. Il faut essayer de garder ce sport ouvert, près du proche public. Faut savoir que j'en discutais hier avec les coureurs, avec nos coureurs. En France, c'est vrai que ce sport fait partie de notre culture et de notre patrimoine. Et le Tour de France fait partie de notre patrimoine au mois d'août et au mois de juillet. Et on a tous des enfants et il faut que, on a tous des enfants qui veulent venir voir ensemble pique-niquer ou au bord des routes. Et ça, il faut qu'on le garde. Ça fait partie de notre patrimoine en France et voilà, on en a tous cette responsabilité.
Nicolas, il y a de l'inquiétude chez les coureurs de votre équipe?
Oui, je pense pas plus qu'avant quand certaines autres équipes ont été aussi gênées, mais je pense que oui, il n'y a pas que chez nous, je pense qu'on a eu beaucoup de soutien de la part de certains coureurs français aussi ce matin, hier pendant l'étape, et en disant que voilà, entre eux sentent aussi que si ça peut arriver à 2-3 coureurs, quelques coureurs étrangers, ça peut arriver à n'importe qui quoi.
Merci beaucoup Nicolas Portal, le directeur de l'équipe Sky, directeur sportif qui, vous le comprenez, essaye de calmer les esprits après l'incident d'hier autour de Chris Froome, autour du bus Sky. Il y a du monde, il y avait beaucoup de stress, de tension derrière la ligne également, avec des explications entre sprinters. On a vu Peter Sagan venir s'expliquer avec Brian Cockart en anglais, et puis on a vu deux garçons, je crois que c'est Laporte de Cofidis et Michael Matthews qui ils étaient presque à en venir aux mains derrière la ligne tout simplement après le sprint. Donc
ah
vous
oui
le voyez, oui. Michael Matthews qui a mis son vélo par terre et qui était prêt à s'expliquer férocement avec le coureur de Cofidis. Bon, ça s'est calmé après, les esprits se sont calmés, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de tension après un tel sprint.
Très bien, Christophe Laporte qui termine premier français de cette étape, hein, Fred, à la 7e place je crois.
Oui, un jeune coureur qui était là pour découvrir le Tour de France et surtout être équipier de Nasser Bouhanni chez Cofidis. Il va vite, il a une belle petite pointe de vitesse, l'ancien coureur de l'AVC Aix-en-Provence, 7e du sprint aujourd'hui, qui s'est mêlé à la lutte entre bolides du dernier kilomètre. Et c'est peut-être ce qu'a reproché Michael Matthews, le coureur australien de l'équipe Orica Green Edge, à cet inconnu peut-être à ses yeux. Ça fait toujours drôle aux sprinteurs quand des inconnus viennent se mêler à leur combat. Christophe Laporte qui vient réaliser une belle performance dans le top 10. Pendant ce temps-là, Brian Cockart aurait dû faire beaucoup mieux. Il avait une place dans le top 5 assurée, mais il a toucher la roue de Peter Sagan
coup d'épaule volontaire de Peter Sagan qui s'est
ouvert la porte.
Et oui, ce sont des sprinters. J'entendais Pierre-Yves s'étonner de la réaction de Michael Matthews qui va pour se friter avec Christophe Laporte. Ces gars-là sont des kamikazes et ont une adrénaline, un taux de testostérone beaucoup plus élevé que la moyenne. Ce sont des boxeurs et au terme d'un sprint, évidemment, les esprits sont très très chauds. C'est comme ça sur quasiment toutes les courses de vélo.
Mais ce genre de choses, on peut le faire. Il n'y a pas de sanction pour Sagan à attendre, Cyril. C'est tout à fait légal de filer comme ça un coup d'épaule en plein sprint. Ouais.
Bah, ils sont côte à côte. Sagan est dans l'aspiration. Il veut sortir pour déboîter. Brian vient à sa hauteur. Il ferme la porte. Alors c'est vrai que s'il ne fait pas ça, la porte est fermée. Donc au moment où lui veut sortir, faire son effort, et il va au contact épaule contre épaule. Non, il n'y a pas à déclasser, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais avec les commissaires. Ouais. Des fois, vous avez un coureur qui met 10 coureurs par terre dans un sprint et on lui décerne une médaille. Et d'autres fois, on déclasse sans que ce soit véritablement justifié.
Très bien. En tous les cas, Peter Sagan a raté le coche aujourd'hui. Il n'est pas dans le top 3 de l'étape. C'est quand même assez rare de sa part. Il ne signe que la 4e place de cette étape remportée par
André Greipel, le gorille de Rostock, l'allemand de l'équipe Lotto Soudal, qui est assurément le meilleur sprinteur du Tour de France. André Greipel, qui devance ici à Valence pour la dernière occasion des sprinteurs avant les Champs-Élysées. Il devance son compatriote allemand John Degenkolb, qui fait 2 devant Alexander Kristoff, le Norvégien. Peter Sagan, encore dans l'échappée du jour, termine 4e. Il n'avait qu'à pas laisser autant de jus dans l'échappée sur les routes de l'Ardèche aujourd'hui. 5e Boasson Hagen, 1er français Christophe Laporte. Aucun changement au classement général et Peter Sagan garde évidemment son maillot vert.
Il garde le maillot vert et en plus il a le prix de la combativité aujourd'hui. Il est 17h15, vous êtes sur RMC, l'intégral tour, on revient dans quelques instants.
Si je peux faire une toute petite parenthèse, parce qu'on vient de voir l'accrochage qu'il y a entre Laporte et Matthews. C'est exactement le même que celui qu'il y a entre Sagan et Brian Coquart. Et là, ça serait plutôt la porte qui aurait fermé la porte.
Ok, allez, on se retrouve dans quelques instants pour continuer de débriefer cette 15e étape remportée par André Greipel. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.